La méchante déesse par Valentin Williams. Le pouvoir des antiques dieux de l'Égypte, me dit Finio Kane, dont les prunelles bleues, pleines de rêves, se contractaient sous le casque devant le paysage enflammé de la vallée thébaine. Je me garderai pour ma part d'en faire fi. Accroupi sur la pente raide qui domine le temple en terrasse de la reine Hatshepsut, je lui ris au nez. Saperlotte, m'exclamai-je. Vous n'allez pas prétendre qu'après 20 années de fouilles dans ce pays, vous considérez comme des puissances Horus à tête de faucon, Hathor à tête de vache, Anubis à tête de chacal et toute l'extravagante ménagerie de l'ancien panthéisme égyptien. C'était, me répondit-il, des dieux bienveillants. Ils empruntaient leur figure aux bêtes qui depuis des siècles et des siècles étaient familières à la civilisation retranchée dans la vallée du Nil. Pourquoi des hommes simples, fils du soleil, n'eussent-ils pas adoré la vache qui leur donnait le lait ou le beau petit épervier qui, l'avez-vous vu, planait au-dessus de nous, il n'y a qu'une minute. Ils les connaissaient et les aimaient. Et pourquoi n'eussent-ils pas adoré, puisqu'ils les redoutaient, le crocodile ou la lionne? Brusquement, mon ami s'interrompit. « Abdul Hussein ! » rugit-il, et il se dressa d'un bond, sur 6 pieds de haut, vigoureux, bronzé, grisonnant, en chemise de kaki et culotte de cheval. Au flanc de la colline pendait, en contrebas de la place où nous étions, un gros nuage de poussière. J'y voyais entrer par un bout, pour en ressortir par le bout opposé, une chaîne sans fin de petites silhouettes vêtues de blanc. Un chant rythmait sa marche, entonné de ce fossé chevrotin qui singularise le chant arabe et repris à tue-tête par un unisson de voix. Plus en avant, parmi les débris de calcaire qui leur montaient jusqu'à la ceinture, 3 hommes râblés, dont la sueur lustrait le hâle, s'escrimaient furieusement avec des houes à manches courtes, l'un creusant le sol, les 2 autres remplissant les couffins d'osier, que la chaîne leur jetait vide et qu'elle remportait, sitôt plein. Un solide gaillard à moustache, nu-pied comme le reste, se tenait immobile auprès des travailleurs, observant d'un œil aigu les débris qui tombaient dans les couffins. Par instants, il se penchait, cueillait au milieu du tas un morceau de plâtre coloré, un fragment de poutre vermoulu, une main ou un pied momifié, et les rangeait à part. Ou, brandissant d'une main velue un bâton que prolongeait une lanière de cuir, il abattait, d'un coup sonore, cette chambrière improvisée sur les vêtements flottants des porteurs. Alors, la chaîne sans fin pressait son mouvement, le nuage de poussière tournoyait plus haut, frangé d'or par le soleil, tout le long de la pente où vibraient d'un seul accord les voix enfantines. À l'appel de Finio Kane, l'homme au fouet se retourna brusquement. « Nam, votre bon plaisir » cria-t-il. « Dis-leur donc de fouiller en avant et non pas sous eux !» hurla Finio Kane en arabe avec un geste autoritaire. « Mais c'est ce que je leur répète toutes les 5 minutes, » répliqua l'homme. « Et vous voyez, ils persistent à faire comme si les os de leur père étaient enterrés là. » De la bouche de mon ami jaillit un flot de ces invectives arabes, dont chacune est une injure brûlante, éprouvée et choisie entre des centaines, faites pour attirer le sang aux tempes et la main au gourdin ou au couteau. Je vis les épaules des terrassiers s'agiter avec malaise sous le gonflement des robes, tandis que pleuvait sur eux l'effroyable algarade, moitié rugie, moitié aboyée, avec ces violentes aspirations que l'arabe s'en va chercher au fond de la poitrine. À la fin, ils se retournèrent, et dans un éclair de dents éblouissantes, grimacèrent leur admiration pour Finio Kane. Au plaisir que leur causait la richesse et la rareté du vocabulaire, se joignait pour eux la fierté de posséder un maître capable de battre en parole n'importe quel effendi, de Luxor à Al-Mazar. « Êtes là, au travail !» conclut Finio Kane, et il se laissa retomber sur le sol à mon côté. « Vous n'avez pas répondu à ma question ?» lui dis-je. Finio Kane avait tiré de sa poche une énorme blague en peau de daim. Il se mit à bourrer sa pipe. « La première fois, commença-t-il, que je vins en Égypte, il y a de cela quelque 19 ans, pour y fouiller, avec le professeur Vandeleur, les tombes des nobles, je rencontrai à l'hôtel de Luxor un garçon dont le nom importe peu. Mettons qu'il s'appelait Donald Stewart. Mon vieux maître avait contracté la diphtérie en traversant l'Italie. Je n'avais rien à faire que de battre le pavé de Luxor, où je restais près d'un mois à me morfondre. Résultat, je me liai d'amitié avec Stewart, et je lui dois l'histoire que je vais vous dire. Stewart était de ces types qui ne valent ni plus ni moins qu'un autre, grand, bien mis, et pour ne mettre rien, admirant un peu trop les femmes. L'ardeur du soleil l'avait tanné comme moi-même. Luxor, en ce temps-là, ne possédait point de Winter Palace avec terrasse, ascenseur et tout le tremblement. N'empêche qu'au vieil hôtel de Karnak, nous vivions comme coq en pâte. il s'y trouva une petite dame, la plus jolie, la plus délicieuse petite dame qui se fût jamais vue. Si je vous dis que son nom m'échappe, c'est la pure vérité du bon Dieu. Nous l'appellerons Mary Barton. Elle était mariée, mais son mari, agent de change, à ce qu'elle nous dit, avait dû repartir pour l'Angleterre. Sans doute était-il riche, car elle s'habillait d'exquises manières et portait, le soir, à son cou, des perles pouvant bien valoir 40 000 livres. 19 ans, mon ami, c'est un bout de temps pour un homme, et pourtant, je revois d'ici Mary Barton, comme je vous vois. Elle était paisible de nature, contente de sa solitude, heureuse du soleil, des fleurs, de toute la vie que le Nil épandait en face de la pergola, où elle aimait à s'asseoir, sous les orangers dans le jardin de l'hôtel. Elle avait de magnifiques cheveux châtain foncé, fournis et souples, très simplement tressés autour de la tête, car les femmes n'avaient pas encore eu l'idée de se tondre les cheveux jusqu'à la peau, afin de ressembler à des garçons, et il y avait dans ses yeux une sorte de calme très noble qui toujours me faisait songer à un lever de soleil sur Killarley. Parfois, dans l'après-midi, elle me contait son existence chez elle. Une pneumonie lui ayant laissé les poumons très faibles, les médecins l'avaient envoyée passer au loin l'hiver. Tout le monde à l'hôtel ressentait pour elle de la sympathie, mais Donald Stewart plus que tout le monde. Elle avait rassemblé une collection d'ouvrages sur l'Égypte, et chaque jour, Stewart, vous ai-je dit que, comme moi, il étudiait l'égyptologie, lui faisait traverser le fleuve dans la felouque de l'hôtel, pour l'emmener à Dodan, tantôt au Ramseum, tantôt à Medinet-Abou ou dans la vallée des rois. Il était l'homme de savoir. Quelle femme n'eût accepté pour guide un beau garçon versé dans la connaissance des choses égyptiennes, plutôt qu'un de ces sacrés drogmans qui possèdent pour tout bagage 12 méchants mots d'anglais et vous ont une démangeaison perpétuelle au creux de la main. Lazenby, le vieux Jack Lazenby, celui, vous savez, qui publia le papyrus du grand prêtre Senoubeb, était en train de relever à l'époque les inscriptions des tombes de Kourna. Ce fut lui qui attira mon attention sur ce qui se passait. Un soir, à l'heure du couchant, dans le jardin de l'hôtel, Mrs. Barton, Jack et moi, deux visions de ce qui fait le sujet même de ce récit, le pouvoir des anciens dieux de l'Égypte. Ce devaient être des hommes très pieux que les Égyptiens d'autrefois, dit la petite Mrs. Barton, témoin la splendeur des temples qu'ils dédièrent à Amon-Ra, à Hathor, à quantité d'autres divinités. Pieux, s'écria le vieux Jack, parlons-en. Oui, sans doute, ils sacrifiaient aux formes extérieures. Mais les dieux qu'ils craignaient, ce n'étaient pas les grands, les officiels, c'étaient les mauvais. Comme Sekhmet, la déesse à tête de lionne, qui présidait à la guerre et à la violence, ou la déesse Tortue, ou l'une de ces déités qui peuplaient les régions souterraines. Croyez-moi, si vous voulez, aujourd'hui encore, les femmes des Fellahs attribuent leurs ennuis à Sekhmet. Là-bas, à Karnak, dans les profondeurs du temple consacré à Ptah, lequel, dois-je vous l'apprendre, était l'époux de la déesse. Il y a un petit sanctuaire, réduit obscur, sinistre, où jamais un rayon ne pénètre, sauf quand la pleine lune glisse sa lumière par l'une des 4 cheminées pratiquées dans le toit. Sekhmet y siège, hideusement figuré par une statue de granit. C'est toujours là que les paysannes vont en pèlerinage demander celle-ci un fils, celle-là un charme d'amour qui lui garde le cœur de son mari. Ma parole, le lieu a quelque chose de magique. Dans le temps que j'étais beaucoup plus jeune, j'allais une nuit avec une femme de mes amies, et ce clair de lune, cette image cruelle nous épiant du fond des ténèbres, que le diable m'emporte, si la pauvre petite n'en eut pas une crise de nerfs. Instantanément, l'imagination de Mrs. Barton s'échauffa. Mais, s'écria-t-elle, c'est palpitant. Et elle n'eut plus d'autre idée que de se faire mener par le vieux Jack au sanctuaire de Sekhmet. Dans 2 jours, la pleine lune, ce sera d'un romantique. Promettez-moi de m'y mener, monsieur Lazenby. Nenny, grommela-t-il, je vous sais trop capable de demander à la déesse qu'elle jette un sortilège sur moi, et je tomberai amoureux de vous, comme le sont à l'hôtel tous les autres hommes. Tandis qu'il parlait, j'observais Mrs. Barton. Elle changea tout à coup de visage. On eût dit que ses traits s'illuminaient. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses yeux devinrent plus brillants, sa respiration parut s'accélérer. Je tournai la tête et m'aperçus que Stewart était là, debout, derrière ma chaise. « Mrs. Barton, dit-il, je crois avoir découvert chez Moassey un scarabée authentique du temps de la reine Hatshepsut. On vous le réserve. Voulez-vous m'accompagner à la boutique pour le voir ?» Le jour déclinait très vite. Mais, à la clarté mourante du crépuscule, je vis le regard qu'elle lui adressait et Lazenby le vit comme moi. Elle partit avec Stewart. sa robe jetait par éclairs entre les palmiers des lueurs blanches. Il n'était pas hors de vue qu'elle avait posé son bras sur celui de son compagnon. « Voilà l'Égypte !» Et le vieux Jack, qui connaissait le pays depuis près de 30 ans, secoua son front chenu. « Il y a de la sorcellerie dans l'air. Cette honnête femme est amoureuse. Finucane, vous devriez raisonner, votre ami. » Le tour que prirent les choses me dispensa de ce soin, car dans la nuit du même jour, comme je me promenais avec Stuart sur la berge du fleuve, il me fit ses confidences. Je parlais de m'en revenir, minuit étant sonné depuis longtemps, et je lui demandais s'il rentrait avec moi, quand, dans une explosion subite, « À quoi bon aller me coucher » s'écria-t-il, comme s'il libérait des mots qui l'étouffaient. « Minuit se passe sans que, pour ainsi dire, je ferme l'œil. Finucane, je ne vous connais que depuis peu, mais vous m'inspirez de la sympathie et il faut que je me confie à quelqu'un. Conseillez-moi. Que doit faire un homme lorsqu'il s'éprend d'une femme mariée ? Lui avez-vous révélé vos sentiments ? Demandai-je, en me souvenant de la façon dont elle l'avait regardé. Il hocha la tête. « Non. Eh bien, rompez-la et fuyez. C'est probablement ce que je vais faire. Mais vous savez ce qui advient des bons conseils, mon ami. Deux jours plus tard, je ne fus nullement surpris de voir Stuart et la petite dame descendre en voiture la route de Karnak. Une rafale de vent chaud s'abattit sur la vallée, chassant devant elle une trompe de poussière. Le nuage flottant qui enveloppait les terrassiers s'enfla, devint plus dense. « Et alors ? » fis-je. Car Finucane s'était tu. Ses yeux bleus regardaient à nos pieds, les trois rubans bleus du fleuve se déroulaient entre les verdures des rives. « Ya Raïs ! Hola, contremaître » beugla-t-il soudain avec colère. « Nam ?» lui répondit une voix gutturale dans le brouillard. « Qu'il ne change pas de direction, entends-tu ? Ad ! Très bien. » Et mon ami revint à moi. Stuart avait bien eu l'intention de suivre mon conseil, du moins c'est ce qu'il me dit. Mais admirez comme le destin se joue de nous, pauvres mortels que nous sommes. Mrs. Barton était allée à lui le lendemain en le priant de l'emmener à Karnak, voir le sanctuaire de Sekhmet au clair de lune. En vain avait-il protesté qu'il ne le pouvait pas, étant obligé de se rendre au Caire. Elle avait refusé d'en démordre, qu'il retarda son voyage de 24 heures. Pour cette expédition lunaire, elle préférait n'avoir d'autre guide que lui. Il tint bon et ne la revit plus de tout un jour. Cependant, il ne partit pas. Le soir d'après, au jardin, elle l'aborda pendant qu'il fumait sa pipe et lui demanda ce qu'elle lui avait fait pour qu'il l'évitât. Alors il oublia tout, sauf qu'il la voulait heureuse. Il lui prit la main et lui dit que si elle y tenait toujours, il l'emmènerait à Karnak cette nuit même. Elle lui abandonna ses mains, juste assez pour lui montrer qu'il était pardonné. Et sur le champ, il alla commander au maître d'hôtel que l'on mit dans une voiture un souper froid et un seau à glace avec une bouteille de champagne. Ils partirent au lever de la lune pour souper en haut du grand pylône, tandis que l'astre ferait courir de noires ombres entre les colonnes de la stalle hypostyle et que les chacals glapiraient au loin sur les bords du lac sacré. En cette occasion, elle fut pour lui d'une bonté tendre. Elle ne lui parla ni de son mari, ni de ses enfants, mais elle le questionna sur lui-même, sur les femmes qu'il avait aimées. Ils discutèrent de la vie, de l'amour, des justes conditions du bonheur. Ils échangèrent ces 1000 balivernes où deux jeunes fous, pour qui le monde n'a pas 30 ans, trouvent à se complaire sous une grande diablesse de lune jaune, par une nuit molle et chaude, comme un jour de juin chez nous. Ils firent, me dit Stuart, un délicieux petit souper sur le pylône. Tout en mangeant et buvant, ils bavardaient en vieux camarades. Lui, n'est-ce pas, il était résolu à tenir son cœur fermé. Le repas terminé, il prit Mrs. Barton par le bras pour l'aider à descendre l'escalier en ruine. Car il faisait très noir dans l'ombre du grand portail. La lune était si claire, les colonnes prenaient un aspect si gigantesque, que tous les deux, émus d'une crainte religieuse, ils franchirent sans dire un mot la colonnade du vestibule sous le dôme étoilé du ciel. Peut-être cet émoi fut-il cause qu'elle lui laissa son bras, tandis qu'il traversait à pas lents le temple d'Amon. Stuart avait le sang au temple, son cœur se consumait d'amour, il ne pouvait parler, il n'osait lever les yeux sur elle. « Vous savez, si vous connaissez le sanctuaire de Sekhmet, qu'il se trouve au fond d'une petite cour près du sanctuaire de Ptah. Comme il s'en approchait, l'un des gardiens du temple apparut, tenant une lanterne. Stuart lui donna 5 piastres pour qu'il se retirât. Il se fondit dans les ombres de la colonnade, et les deux visiteurs entrèrent dans le sanctuaire. Jack Lazenby avait raison. C'est un lieu redoutable. Une petite pièce noire comme le diable, toute nue, avec des murs de grosses pierres et un toit surélevé. » Contre le mur qui fait face à la porte se dresse la statue de la déesse. Quatre cheminées disposées en carré sont percées dans le toit. Autant de pièges, dirait-on, à prendre le clair de lune. Cette nuit-là, il n'y passait qu'un rayon, d'une éclatante blancheur, qui frappait en plein la face de la statue. Sekhmet se présentait debout, avec sa tête de lionne couronnée du disque solaire et encadrant de ses oreilles droites le cobra royal, avec ses petits yeux implacables, son gros nez camus, ses lèvres moustachues, accentuant la cruauté de ses dents. Encore que Stuart, déchaussé, mesure à 6 pieds de haut, elle le dépassait par la taille. Les ornements de sa coiffure royale descendaient jusque sur les pointes de ses seins étroits. Sa tunique collait à ses membres longs. Son pied gauche se portait en avant. Sa main gauche étreignait le sceptre à fleur de lotus. Sa droite, la clé de la vie. Elle était toute grise, du gris particulier au granit. Et la lune donnait à ses yeux de pierre, à ses yeux mauvais, une vie menaçante. En l'apercevant de l'entrée, Mrs. Barton s'arrêta, la bouche ouverte. Puis elle laissa retomber le bras de Stuart, marcha vers la statue, et posant sa main sur la froide main grise qui tenait le sceptre, elle avança la tête jusque sous le rayon de lumière qui coulait du toit. Stuart, arrêté derrière elle, vit ses yeux reluire. Un frémissement léger la parcourut. Elle se retourna et le regard se heurtèrent. « J'ai peur, » balbutia-t-elle. Elle allongeait la main. Il s'en empara. La seconde après, Mrs. Barton était dans ses bras. « Marie, mon amour » cria-t-il. « Donald, mon chéri, mon chéri !» lui répondit-elle. Mais soudain, elle sentit se relâcher l'embrassement de Stuart. Il fouetta l'air d'une main. Et quand, frappée de surprise, elle le regarda, elle eut dans ses yeux une souffrance mêlée d'épouvante. Hagard, il considérait derrière elle la déesse, il montrait du doigt le visage de granit. Elle se retourna, une longue forme noire fuyait en se tortillant dans l'ombre de la statue. « Donald, mon chéri, » s'écria-t-elle, « qu'est-ce que cela ?»« Un cobra, » répondit-il, et il étendit la main gauche. Au bord de la pomme, juste à la naissance du petit doigt, perlaient deux gouttes de sang. « On dirait, » ajouta-t-il d'une voix défaillante, « que Sekhmet l'a envoyé pour vous sauver, Marie. » Il allait perdre connaissance, elle l'entraîna à l'air libre, elle criait, criait, et les incrustables prunelles de Sekhmet les poursuivaient dans les ténèbres du sanctuaire. Finucane se tut. Sa pipe s'était éteinte, il en secoua la cendre contre une pierre, puis il la fourra dans la poche de son veston poussiéreux. « On m'a bien raconté, dis-je, qu'il y a des serpents dans le temple, mais j'ignorais qu'ils attaquaient l'homme. Et votre ami Stuart mourut-il? Car je savais que la morsure du cobra donne une mort rapide. « Non, » me répondit Finucane, « Stuart ne mourut pas. Cette même nuit, une bande d'Américains soupait à proximité dans les ruines. Ils avaient une bouteille de whisky. Ils lui en firent boire les trois quarts, puis ils le ramenèrent à l'hôtel, où le médecin l'opéra séance tenante. Il était jeune et très sain, il échappa à la mort, mais ce fut de justesse. « Et la dame ?» Finucane pinça les lèvres. « Ma foi, elle fit ce que j'avais conseillé à Stuart de faire. Elle partit. Sitôt qu'elle le sut hors de danger, autrement dit le lendemain, car vous n'ignorez point qu'en ce cas où l'on meurt, où l'on guérit très vite, elle quitta l'hôtel sans l'avoir revue. Et il n'a plus eu d'elle, que je sache, la moindre nouvelle. « Pauvre diable !» conclut Finucane, avec cette façon qu'ont les Irlandais de psalmodier les syllabes, il en a traîné un fier chagrin. Mon ami tomba dans une rêverie muette. De la pente que nous dominions, le chant des travailleurs montait à nos oreilles. En moi, le cœur est mort. Jamais plus je ne regarderai dans les yeux brûlants de ma bien-aimée. Nasal, pointu, prolongeant la vibration de chaque note, la cantilène du coryphée flottait au versant de la colline. Le travail touche à sa fin. Allons déjeuner, me dit brusquement Finucane, et se frottant les paupières d'un geste là. Diable soit de cette poussière qui brûle les yeux! S'écria-t-il avec colère. Pour se relever, il appuya sur le sol à mon côté sa main brune. Et tout au bord de la pomme, juste au-dessous du petit doigt, je vis deux points violets, entre lesquels courait une longue cicatrice blanche. C'était la méchante déesse par Valentin Williams.